Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Avec Lionel Charbonnier, avec Daniel Riolo, on est là jusqu'à minuit. Ensuite, c'est Nico Villas et Thibaut Jean-Grand qui prennent la suite jusqu'à 1h du matin avec la libre antenne de l'After. Et évidemment, on a le gagnant de notre jeu, et Philippe, qui remporte le maillot du Portugal. Bravo Philippe.
Gagnez votre maillot sur RMC avec Foot Corner. Jusqu'à 70% de réduction sur les plus grandes marques de sport, c'est la Black Week. Jusqu'au 28 novembre sur footcorner.com.
Voilà, demain soir, de nouveau maillot à gagner. Tiens, on me dit que tu as parfaitement bien résumé l'affaire Benzema. On écoute.
Tout le reste, tu trouves que ça coule, c'est de l'eau de roche.
C'est de l'eau de roche? Ça coule comme de... Non, c'est l'eau de roche, c'est pas transparent.
Ça coule comme de l'eau de roche.
Oui,
ça coule de source.
C'est
clair comme de l'eau de roche ou ça coule de source? Ah oui.
Non, mais d'accord. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était. Attends, remets-le.
Non,
c'est pas une boulette. C'est une adaptation d'expression. C'est pas du tout la même chose. Réécoute-le bien. Je dis bien. Est-ce que c'est comme de l'eau de roche? L'eau de roche, c'est limpide, c'est clair, c'est propre. Et c'est ça que je dis. J'ai pas utilisé l'expression. J'ai utilisé une moitié d'expression. C'est pas exactement pareil.
Ah, même là-dessus, il est pas d'accord.
C'est vrai. C'est un peu comme si tu disais vole pas un œuf.
Tout le reste, tu trouves que ça coule, c'est de l'eau de roche.
Voilà, c'est de l'eau de roche. Tu vois, je coupe l'exemple. C'est comme si je te dis vole pas un œuf et que je dis pas parce que sinon c'est comme si tu voles un bœuf. Tu vois?
Oui, parce que qui vole un bœuf vole un œuf.
Exactement.
C'est ce qui est ça.
Non, l'expression c'est que tu voles un œuf vole un bœuf. C'est pas tu voles un bœuf vole un œuf. Voyons.
Qui vole un œuf, vole un bœuf.
C'est ce que je dis. C'est ce que je viens de te dire. C'est toi qui dis le bœuf. Oh, vous faites exprès, arrêtez. Vous faites exprès, vous me prenez pour un idiot. Arrêtez, ça va.
Bon.
Non.
Allez, on ouvre le dossier ghanéen, si vous le voulez bien, parce que les Ghanéens nous a quand même bien bluffé aujourd'hui. Ils avaient déjà été pas mal sur le premier match. Hein. Ils avaient marqué, ils avaient perdu, mais ils n'avaient pas été ridicules loin de là. Et pourtant, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément. Ils ont eu pas mal de galères avant la compétition. On est en ligne avec Lydia Leclerc, qui connaît très bien l'équipe du Ghana, et pour cause. Lydia collabore, est une collaboratrice de Bruno Satin, qu'on connaît bien.
Ah, non, mais aucun rapport avec Michel Edouard.
Par rapport à Leclerc?
Oui.
Je ne sais pas.
Ah,
Lydia, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Aucun rapport, tu confirmes?
Non, aucun. Je confirme.
Alors, explique-nous, tu bosses un peu avec les Ghanéens, enfin, tu étais proche de la sélection et de la Fédé?
C'est ça. Je travaille bien avec la Fédération, qui a changé. On a changé de fédération il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et ils avaient le souhait de travailler avec beaucoup de binationaux. Ils voulaient recruter plus de binationaux. Ça faisait partie de leur projet. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis intervenue, puisque je suis, on va dire, une binationale. Donc on va dire que je suis beaucoup les championnats européens, notamment français. Et du coup, je connais les Ghanéens qui évoluent ici en France, notamment. Donc,
c'est toi qui as œuvré pour que Djikou rejoigne l'équipe du Ghana?
Exactement.
Bon, il est rentré là aujourd'hui, le défenseur.
Oui,
de...
il a bien fait.
ça lui permet de jouer une Coupe du Monde, c'est quand même beau.
Clairement. Et aussi, ce qui est très...
Je crois que Gilbert aimerait que tu dises que c'est tout le résultat du Ghana est vraiment principalement c'est grâce à lui.
Non, il n'était pas titulaire, le pauvre.
Oui, mais même un petit peu, quoi. Même sa présence suffit en tant que Strasbourgeois.
Aussi, et puis ce qui est très bien avec Alexander, c'est que quand il arrive au Ghana, ce qu'il faut savoir, il ne parle pas du tout aucun de nos dialectes, il ne parle pas très bien non plus Pidgin English, mais aujourd'hui, il s'est vraiment bien adapté, il fait partie des gars qui chantent avant les matchs et tout ça, il s'est vraiment bien intégré.
Alors, Lydia, est-ce que tu es étonnée par le match d'aujourd'hui du Ghana? Ou est-ce que toi, pour les avoir vus et suivre la sélection depuis un moment, tu savais qu'ils pouvaient le faire? C'est-à-dire gagner en Coupe du Monde, ce qui n'est pas forcément évident pour toutes les équipes.
Alors oui, je savais qu'il pouvait le faire, dans le sens où déjà le premier match contre le Portugal, même si au début on est trop timide et qu'on donne beaucoup trop de respect aux Portugais, ils ont quand même essayé de montrer des choses avec coups douces, tout. Enfin, l'ensemble des joueurs a essayé de montrer des choses, même si au démarrage on est un peu timide. Et oui, je savais qu'aujourd'hui ils pouvaient faire quelque chose. Ils l'ont fait. Enfin, je pense.
Bah oui, moi, et là, ils peuvent encore se qualifier avec donc ce fameux.
Un revival contre l'Uruguay maintenant.
Oui, c'est voilà, ça. Ce fameux match contre l'Uruguay qui est fou, quoi.
C'est ça, un match.
C'est encore un match qui est resté dans toutes les mémoires au Ghana.
On
s'en souvient tous, mais c'est absolument fou. Enfin, ce match était tellement dingue au Ghana, c'est encore tout le monde s'en souvient. Ça reste en travers de la gorge encore là-bas.
toujours. Donc pour nous, forcément. Vendredi, c'est notre finale. C'est un match très 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 important parce qu'on n'a pas oublié la main de Suarez, on n'a pas oublié Diane qui met pas le penalty. Donc oui, c'est un match très très important.
Lydia, dans le match d'aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un petit peu du cas Jordan Ayew qui est je pense ne pas me tromper, assez décrié de la part des supporters ghanéens, mais toujours tous les coachs qui se sont succédés ont toujours donné une grosse confiance, et aujourd'hui il a encore été déterminant dans la victoire. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Pourquoi est-ce qu'il est décrié? Et quand on le voit, parce que moi quand je le vois aujourd'hui, franchement, bravo Jordan, quoi, il a été magnifique encore.
C'est vrai qu'aujourd'hui il a fait un très bon match. Malheureusement, quand il est entré en jeu contre le Portugal, parce qu'il n'a pas commencé le match, forcément il était frustré de ne pas commencer le match, et malheureusement ça s'est ressenti sur le terrain. Et par rapport à ça, les Ghanéens disent, ils rentrent dans le terrain, ils ne s'échauffent pas, ils ne jouent pas le match qu'on souhaite qu'ils jouent. Et par rapport à ça, c'est vrai que oui, il y a eu beaucoup de critiques. Les critiques, il les a entendues. Et je pense qu'il y a eu, ça a donné une réaction. Parce que le match qu'il fait aujourd'hui, il a fait un très bon match. Et j'aime beaucoup Jordan, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu jouer comme ça.
Il a répondu de la bonne manière, de la meilleure des manières.
Exactement, clairement.
Enfin, l'homme du match, c'est quand même Kudus, là. On parle des frères Ayew, c'est très bien, mais enfin, Mohamed Kudus.
Surtout Jordan, ouais, les frères.
Oui, Kudus, l'homme du match, même contre le Portugal, si vous vous souvenez, il fait un très bon match. Et Kudus est un joueur, c'est un playmaker, il défend, il attaque. Aujourd'hui, nous, on l'appelle Starboy. C'est notre. Il y a beaucoup d'espoir autour de Kudus, de Souleymana, de plein d'autres jeunes. Mais c'est vrai que Kudus, oui, c'est. Et puis, c'est un jeune qui vient. Nous, on appelle ça Zongo. C'est l'équivalent de Félas. Donc, il nourrit énormément. Les gens se voient beaucoup en lui, ils espèrent beaucoup de choses par rapport à Kudus, oui.
Dis-moi la politique, parce qu'effectivement sur les binationaux, donc on parlait de Djikou, mais il y a surtout Inaki Williams quand même qui est ce joueur qu'on connaît bien de Bilbao, le fameux gars qui a enchaîné tous les matchs, là, qui a le record de matchs joués.
Comment il a été accueilli au Ghana?
Alors il a été très bien accueilli. Parce que forcément c'est un joueur qui fait bien, et ils sont toujours très contents d'avoir des binationaux, d'avoir des jeunes qui sont nés, qui ont grandi en Europe, mais qui viennent quand même jouer pour le Ghana. Donc
ils lui ont pas dit qu'il aurait pu se décider plus tôt et pas attendre le dernier moment?
Bien évidemment, ça on a beaucoup entendu, que ce soit pour lui et pour d'autres. On a eu beaucoup de personnes qui critiquaient en disant vous venez parce que c'est la Coupe du Monde. Ça, c'est des choses, oui, bien sûr, qu'on entend tous les jours. Donc, certaines personnes qui les voient comme des opportunistes, on va dire. Ça, oui, ça, c'est quelque chose qui est là.
Mais alors, parce que au début, tu nous disais que la Fédé avait cette volonté de se tourner vers les binationaux. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'on a estimé qu'au Ghana, on n'avait pas le réservoir suffisant pour avoir une équipe au niveau? Ou alors on se dit, bon, quand même, quand on a un gars comme Inaki Williams qui potentiellement pourrait jouer pour nous, c'est un peu bête de passer à côté. C'est ça la démarche?
Alors, c'est ça. La démarche, c'est ça, parce que le réservoir, je pense qu'on est aujourd'hui en Afrique, le Ghana, on est vraiment une nation de football. On est aujourd'hui le pays.
On voit avec les jeunes aussi.
Exactement. On est le pays qui exporte le plus de joueurs à l'étranger en termes, on va dire, de proportion par rapport à la population, bien sûr. C'est nous qui exportons le plus de joueurs. Mais c'est vrai que la fédération ne voulait pas passer à côté des binationaux en se disant ils ont soit le papa, la maman ou parfois les deux qui sont d'origine du Ghana. C'est des garçons qui font bien dans des championnats compétitifs. Donc il ne faut pas passer à côté. Et cette nouvelle fédération a vraiment misé sur ça. Oui.
Et la fédération, est-ce qu'elle a été soutenue par le gouvernement dans cette prise de position où il peut y avoir, comme il y a beau dans, pas spécialement au Ghana, mais dans tous les pays africains, une opposition? Est-ce qu'elle a subi une opposition de la part du gouvernement parce qu'elle avait adopté cette politique-là, ou est-ce qu'elle a été soutenue?
Elle a plutôt été soutenue parce que...
Et les militaires disent rien non plus? Ça va?
Non, mais vous savez, au Ghana, c'est très... C'est très peaceful, c'est très pacifique. Donc, à partir du moment où la personne veut apporter quelque chose de nouveau et qu'on est convaincu, ou du moins on pense que c'est quelque chose qui peut être bien pour le pays et que ça peut marcher, tout le monde va soutenir, même s'il y a quelques critiques. Des critiques, il y en a toujours.
Oui, ça,
surtout,
il y en a toujours. Ouais.
Voilà, surtout au Ghana.
Merci Lydia, non, merci
partout.
Beaucoup.
Merci beaucoup. En France aussi, Lydia.
Bonne soirée. Tiens, on a Hamza Ramani qui nous rejoint.
Bonne soirée.
Notre spécialiste des équipes africaines. Salut Hamza.
Salut Gilbert, salut à tous.
T'as été bluffé par le Ghana, Hamza?
Ils ont fait un bon match, ouais. Ils ont fait un bon match. J'étais un peu inquiet sur la première période, mais le fait de voir une équipe valider ses temps forts, ça fait aussi du bien.
Exactement. Et alors, je rappelle quand même qu'ils ont perdu leurs trois gardiens.
C'est incroyable, le
truc quand même de pas de chance, et ça à quelques jours à peine de la Coupe du Monde.
Et Ziggy est très bon, le quatrième est très bon.
Oui, il joue à Saint-Gall. Alors lui, c'est l'habituel troisième gardien, il joue en Suisse à Saint-Gall, mais effectivement, Wolacott, qui joue en troisième division anglaise, je crois, Charlton, s'est blessé, et quelques jours plus tard, son remplaçant s'est aussi blessé. Donc effectivement, on se retrouve, on a souvent des belles histoires comme ça, où t'as le gardien remplaçant qui arrive au cours d'une compétition, au cours d'un match. Là, pour Ziggy, c'est au tout début de la compétition, et pour l'instant, ça lui réussit, et ça réussit au Ghana.
Et là où ils ont été forts, Hamza, j'ai trouvé, c'est que en plus c'est dans le déroulement du match, c'est-à-dire que tu gagnes à zéro, ensuite ouais. tu te fais franchement foutre la tête sous l'eau en prenant tu perds 2-1 juste avant de rentrer dans les au vestiaire, ouais, et puis après tu rentres sur le terrain et tu t'en prends un troisième. Enfin, tout était contre les Ghanéens et ils ont su vraiment très très bien réagir.
Ouais, effectivement, l'aspect mental, il est très très important. Et ce qui est, je trouve, intéressant de noter, c'est que on parle beaucoup. Effectivement, nous, on connaît André Ayou, nous, on connaît. Mais c'est vrai que Mohamed Kudus, alors il performe en Ligue des Champions, évidemment avec l'Ajax. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'avec toute cette politique de binationaux recrutés dont vous venez de parler, de savoir que c'est un enfant du CRU, un enfant de la formation ghanéenne qui vient d'un Zongo près de Accra, du côté de Nima, qui porte aussi cette formation du Ghana et qui avec son doublé permet au Ghana de s'imposer 3-2.
Il y a un truc
C'était clair ce qu'a dit Lionel sur le déroulé du match, parce que moi j'ai pas compris du tout.
Non, mais Lionel, il te dit qu'ils avaient tout contre eux, c'est-à-dire que quand les Coréens ont mis 2-2, tu te dis attention.
Ouais.
Tu vois,
personnellement, je pensais qu'ils allaient craquer.
Moi je pensais que les Ghanéens allaient craquer.
J'avais entendu qu'ils avaient été menés, quoi.
Non, mais par contre, on était à un moment. Enfin, moi, je pensais qu'on était plus proche du 3-2 pour la Corée.
Mal mené, pardon.
Dis-moi, ouais, Hamza, il y a un truc.
J'ai cru qu'il avait zappé, il était tombé sur un autre match.
Il y a un truc qu'on n'a pas souligné quand même. Les équipes africaines, là, à la Coupe du Monde, il n'y a que des coachs locaux, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Sénégalais pour le Sénégal, Ghanéens pour le Ghana, Tunisiens. C'est du jamais vu,
c'est
en fait. Ça.
Oui, mais c'est en fait, Afrique. Alors, mais après,
tu sais pourquoi? Moi, je vais te dire pourquoi, Gilbert.
Regardez les uns après les autres.
Est-ce que tu considères Gilbert, Regragui ou Aliou Cissé comme des locaux, parce qu'ils ont aussi bénéficié d'une formation ici? Maintenant, en termes de nationalité sur le passeport, effectivement, ce sont 5 coachs africains qui coachent leur sélection africaine. Moi, à titre personnel, j'en suis ravi, parce que avoir des Sven Goran Eriksson qui arrivent 3 mois avant une Coupe du Monde, qui prennent une génération dorée, telle que celle de la Côte d'Ivoire en 2010 pour se faire sortir au premier tour et pour repartir aussi vite qu'ils qu'il est venu. Moi, ça m'agace. Donc, effectivement, je suis ravi de voir des coachs africains avec un projet qui s'installe dans un projet, même si pour Otto Addo, il va très vite retourner du côté de Dortmund. Mais...
Alors, Hamza, moi, je trouve que c'est un débat très intéressant. Arrêtons-nous deux minutes là-dessus. Je trouve que, effectivement, là où tu as 100% raison, le mec qui vient en mission, genre, en gros, prendre la mallette. Tu diriges l'équipe pendant la Coupe du Monde, en gros t'en as un peu rien à cirer, machin. Effectivement, je suis d'accord avec toi, j'aime pas l'idée. Qu'on prenne un local, on va dire ça comme ça, c'est effectivement a priori très bien, sauf que le prendre uniquement parce que il a le bon passeport, mais au fond, ou c'est un ami d'amis, tu sais souvent comment ça se passe, il est placé là, il est pote avec le patron de la Fédé. Moi, ce que j'aimerais, c'est non seulement que ce soit un Camerounais qui dirige le Cameroun, un Sénégalais, etc., mais qu'il ait une vraie identité de jeu. Ce dont souffrent le plus, selon moi, les sélections africaines, c'est qu'on fait un puzzle de joueurs. C'est souvent du pouce-ballon. Parfois, il y a des belles aventures. Parfois, on est déçu. Mais d'un point de vue du jeu mis en place... Souvent, il n'y a pas grand-chose. Le Sénégal, c'est comme ça. Le Cameroun, c'est comme ça. Le Ghana, à la limite, on pourrait dire qu'ils ont toujours eu ce style très explosif, très en puissance. Bon, c'est un peu leur marque de fabrique.
Aujourd'hui, Daniel, le Ghana, c'est un assemblage de joueurs, finalement, avec tous les nouveaux
binationaux. Oui, non, si mais on va dire, dans le passé, il s'était créé une sorte un peu d'identité autour de cette marque de fabrique. Un peu. Mais les autres, c'est un peu... On fait un puzzle. On pourrait... pas vraiment dire quelle est leur tactique au fond. On met les bons joueurs avec les bons joueurs. On essaye de bricoler un peu au dernier moment. Tiens, je vais voir s'il n'y a pas un binational à choper quelque part. Le vrai projet, Belmadi, quand il a pris à l'époque la sélection algérienne, on a compris le projet. Ça a duré. Il a fait une sélection de joueurs sur plusieurs années. Il a abouti à ce qu'il voulait quand il a gagné la CAN. Bon, après, on est passé à autre chose. Là, il est en situation d'échec. Mais il y a eu un projet construit aussi bien dans le jeu que dans les joueurs. Souvent, c'est un peu coup par coup. Tu vois, c'est comme ça, mais il n'y a pas de choses. Quelle est l'identité de jeu du Cameroun? Je l'aime beaucoup, Rigobert Song, mais c'est quoi? En fait, il motive les mecs dans le vestiaire, il tape dans les mains. Aliou Cissé, de la même façon, c'est des mecs pour qui on a beaucoup d'affection, parce qu'on sait qu'ils sont attachés à la sélection.
Aliou Cissé, c'est plus clair. C'est Aliou Cissé, on sait comment il joue, il a gagné la CAN avec une équipe qui a bien étonné, puis un talent devant.
C'est un projet. Oui, c'est ultra minimaliste, et tant mieux si j'ai Sadio Mané, quoi. Voilà, en gros. Bon, bref, mais une équipe qui profiterait du potentiel, qui essaierait de mettre un jeu en place, une vraie tactique, un projet de jeu. Ça c'est rare. C'est un peu de la préparation à la dernière minute.
La difficulté, après, hier, tu soulevais.
Attends, juste pour faire avec Hamza, parce qu'il soulevait un problème hier, il avait raison, c'est qu'après, elles ont du mal à travailler tout ça parce qu'elles jouent pas toujours contre des fortes sélections quand elles se préparent. Et donc, c'est un peu également
un
handicap.
Il y a un problème de stabilité. Aujourd'hui, si tu prends les cinq nations africaines, il y a moins d'un an, t'as eu une Coupe d'Afrique des Nations. Si tu prends les cinq nations africaines, le Cameroun a changé de sélectionneur, le Ghana a changé de sélectionneur, le Sénégal a gardé son sélectionneur, le Maroc a changé de sélectionneur, la Tunisie a changé de sélectionneur. Donc, quatre des cinq équipes aujourd'hui présentes en Coupe du Monde ont changé de sélectionneur depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, juste avant un barrage de Coupe du Monde. Donc, un barrage décisif qui te permettait ou non d'aller en Coupe du Monde.
Ça fait partie de ma critique, en fait.
C'est la pression du résultat. De la même manière que les binationaux que tu vas chercher, juste avant une compétition, ça fait partie de la culture du résultat, la volonté de tout de suite performer. Tu vas prendre Iñaki Williams qui, pendant 10 ans, a toujours refusé de porter le maillot de la sélection ghanéenne. Là, il y a une Coupe du Monde qui arrive. Toi, tu te mets en position où tu vas encore supplier un joueur. Cette fois, parce qu'il y a la Coupe du Monde, il vient. Le joueur, il vient pour la Coupe du Monde. Il vient pas pour le projet ghanéen.
Souvent ça fait du bricolage.
Rappelle-toi de Kevin Prince-Boateng, Coupe du Monde, par contre les matchs en Afrique.
Je ne veux pas venir parce que j'ai autre chose à faire, je dois jouer en club.
Lionel veut en placer une depuis tout à l'heure là. Vas-y Lionel.
Non, mais je suis d'accord avec Hamza, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qu'a dit Hamza, c'est-à-dire que le problème c'est que tu n'as pas le temps de construire, c'est très tard, c'est la moindre défaite tout de suite. Alors ça c'est le gros problème.
Ça fait longtemps qu'il avec le Sénégal.
C'est un exemple. Tout le reste, franchement, en Afrique, tu perds un match. Et de toute façon, à chaque match en Afrique, tu es sur la sellette. Soit par ta fédération, soit par ton gouvernement, soit par l'armée. Je connais très bien l'Afrique et c'est comme ça que ça se passe. Dans 99,9%, c'est comme ça que ça se passe. Tu perds un match. Alors, si peu, ça, tout dépend aussi comment tu as perdu le match. Si jamais tu as fait jouer des locaux, locaux, t'as les pro locaux qui vont dire, enfin les pro locaux qui vont dire ah bah fallait mettre les locaux et puis tu perds le match. Alors t'as les autres qui disent ouais mais c'était mieux de jouer avec les binationaux et les binationaux. Pourquoi c'est comme ça? Parce que t'as des présidents de clubs qui sont plus intéressés de gagner avec des locaux parce que ça leur fait des transferts dans l'Europe, notamment dans les, enfin des gros transferts, et donc ils ont un intéressement pour leur propre club, comme dans tous les clubs.
C'est quelque chose d'infime aujourd'hui.
Les transferts entre les pays
africains et les pays européens, ça se fait pas à coups de millions. Là, depuis quelques années, je vais prendre un exemple que je connais un petit peu, en l'occurrence l'Algérie.
Ça se fait de plus en plus.
On a le Paradou qui arrive à vendre quelques joueurs à 3-4 millions d'euros, mais c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et d'extrêmement rare.
Ouais, mais tu multiplies. Mais le réservoir est tellement énorme que tu multiplies ça. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que justement, et ça c'était ma deuxième démarche, c'est-à-dire aussi, et là je suis pas trop d'accord avec toi Daniel, c'est-à-dire que les entraîneurs, même locaux, ont énormément progressé. Moi je suis allé je suis toujours instructeur FIFA où j'allais voir les locaux que les entraîneurs d'élite de leur championnat. Je peux te dire que les mecs tactiquement, ils ont beaucoup progressé par rapport au football africain qu'on pouvait voir. Et c'est pour ça aujourd'hui que les dirigeants n'hésitent pas à mettre des locaux à la tête. Parce que peut-être un petit peu inférieur à un mec comme disait Daniel, il a parfaitement raison, un mec qui vient qui est juste pour prendre le pognon, qui connaît pas le truc, et puis on préfère mettre un local. Mais c'est beaucoup mieux que ce que ça a été. Moi je trouve que tactiquement et techniquement, c'est les Africains, ça joue juste, mais rien à voir avant.
Très rapidement.
Faut qu'on parle de Cameroun, les gars.
Très rapidement, Gilbert. Il y a quelques mois, on a eu le transfert de Karim Konaté, qui est le prodige du football ivoirien et peut-être même du football africain. C'est le premier gros transfert entre guillemets d'un joueur d'Afrique subsaharienne vers l'Europe, entre l'ASEC Mimosa et la Galaxy Red Bull. Il est parti du côté de Salzbourg.
Ouais, c'est mais là tu rapide. Parles il y a des retombées aussi, par exemple.
Vous voulez pas parler du Cameroun, vous?
Quand des Africains, qui sont transférés, même au jour d'aujourd'hui, qui sont plus affiliés à l'Afrique, à leur club de d'origine, le club touche quand même une quote-part hein, sur les transferts.
Ah bah oui, comme tout, c'est normal, c'est la règle FIFA.
Oui, c'est normal, mais là, parle d'un transfert.
Qu'est-ce qui après ça continue?
Oui, mais dès qu'on parle de coach,
quand je connais,
il est passionné.
Je connais parce que c'est mon métier. J'ai été formateur.
Moi, j'aimerais que vous me donniez mon avis sur le Cameroun parce que c'était un match assez étrange. C'est-à-dire que le Cameroun démarre bien son match, ouvre le score, derrière se fait littéralement manger par la Serbie. Et on se dit même à 3-1 après le but un peu d'école superbe collectivement des Serbes que là on va vers l'humiliation sans doute. Et puis il y a une espèce de, l'entrée d'Aboubakar a tout changé et le Cameroun arrive en deux occasions là à se relancer complètement. C'est assez étonnant. Et alors le Cameroun, franchement, moi j'étais
déçu
par le jeu du Cameroun parce que tu as Zambou
Anguissa. Il y a pas de jeu.
À 40 mètres avant
tout. Et c'est ce que j'ai expliqué avant. En fait, ça a ni queue ni tête. Et comme ça a ni queue ni tête, il peut se passer que si t'as un mec qui rentre, qui d'ailleurs devrait probablement être titulaire, il devrait jouer avec deux attaquants.
Aboubakar, il devrait maintenant. Oui, c'est sûr.
Le mec, il arrive, il te met un but venu d'ailleurs. C'est même pas une piche nette. Parce que faire une louche devant le gardien, c'est quand même assez rare. Tu te demandes.
Est-ce que tu ne crois pas qu'il se sentait hors jeu, qu'il a fait toutes les contractions?
C'est ça.
Ouais. Il finit comme ça parce qu'il sent hors jeu.
Comme ça a ni queue ni tête, c'est 2-3-1, tu passes à 3-3 parce que d'un coup ils se mettent à pousser. C'est comme je te disais tout à l'heure, tactiquement il y a rien dans ce que propose le Cameroun, c'est du pouce ballon. Et en qualité individuelle, si t'as un mec qui place la bonne accélération, ça donne la balle du 3-3. Le mec qui part à la limite du hors-jeu, le centre, belle conclusion, ça donne une belle action. T'as l'impression que tu vas revenir. Bon, voilà, tu sais pas trop à quoi t'en tenir avec cette équipe quand tu la regardes. Je suis désolé, on voit bien que Rigobert Song, il accompagne l'équipe autant qu'il peut.
On parle beaucoup de Rigobert Song, Daniel, mais en fait, il faut savoir que le vrai coach de cette équipe, entre guillemets, alors on va même pas parler de Samuel Eto'o, président, est-ce qu'il est vraiment président? On va même pas parler de Samuel Eto'o.
C'est des coachs qui
dans le staff de Rigobert Song, il y a Sébastien Minier, c'est lui l'entraîneur adjoint sur le papier, mais on peut qualifier, en tout cas, c'est lui qui ramène les compétences tactiques, c'est l'ancien sélectionneur notamment du Kenya, je crois, lors de la Coupe d'Afrique 2019. Donc, c'est lui qui.
Il avait été adjoint de Claude Leroy aussi pendant un moment.
Ça se voit pas encore, ce qu'il met en place.
On parle de Gobert Song. Après, est-ce qu'il a toutes les cartes? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le staff qui fait la liste? Ça, c'est la question. Moi encore, j'ai la vidéo de Gobert Song qui annonce sa liste des joueurs et qui bute sur le nom d'un joueur. On a l'impression qu'il découvre le nom de ce dit joueur.
On lui a donné la liste.
Ce qui s'est passé aujourd'hui avec André Onana. Enfin voilà, il y a plein de situations où il y a
le gardien qui a été exclu.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Alors, la fédération camerounaise parle d'un problème disciplinaire.
Vraisemblablement, Lionel, il y a
une embrouille sur comment jouer.
Sur l'aspect tactique, ouais.
Voilà, en fait, Song reproche à Onana de jouer souvent trop loin de sa surface avec le pied. Il y a notamment une scène qu'on a vue lors du premier match contre les Suisses où il est devant avec le ballon au pied, devant ses défenseurs centraux. Et donc Song lui dit, bah non, faut que t'arrêtes.
Onana joue en mode Ajax.
Non, mais Onana, c'est son style, en fait.
Et bien sûr, son style.
Et Onana n'a pas apprécié, en fait.
Mais comme l'équipe n'a pas de style, et donc le fait qu'il joue comme ça.
Pour jouer comme ça,
il faut que tout le bloc équipe corresponde à ça, quoi. Sinon, comment tu fais? Il est dans la merde. Donc Gobert Song, qui met rien en place, il flippe. Et puis il lui dit arrête de faire ça. Ils se sont
embrouillés. Mais il y a quand même un truc qu'il faut dire sur le Cameroun.
Tout ça, c'est ce que j'appelle, c'est les coachs qui tapent dans les mains. Ça.
Je trouve que c'est une force collective.
Je sais pas
équipe.
Ce que t'en penses, mais exactement. Parce que regarde ce qu'ils ont fait contre l'Algérie.
Regarde, Gilbert, les grosses individualités que l'on connaît, nous, en Europe, et qui doivent. Enfin, moi, en tout cas, je me dis qu'ils doivent porter cette sélection. T'as qui? T'as Onana, qui joue dans un grand club européen. T'as Zambanguissa, qui, à mes yeux, est l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe cette saison. Et tu as Choupo-Moting, qui réalise la saison de sa vie et qui, même en sélection aujourd'hui, est en forme. Même un joueur comme Zambo, il a eu une Coupe d'Afrique des Nations très compliquée. Et là, j'ai pas le Zambo de Naples aujourd'hui avec
aujourd'hui,
la sélection
camerounaise.
Mais c'est normal, autour de lui, il n'y a pas le jeu qui est mis en place. Ça tourne pas pareil. Donc lui, ouais, est là... Quand tu joues, c'est exactement comme De Bruyne avec la Belgique, c'est pas le De Bruyne de Manchester City. Le Portugal, Bernardo Silva, c'est pas le même que tu vois. Bon, entre le foot de club, le foot de nation, tu fais aussi avec les mecs qui sont autour de toi.
Mais dans l'ADN du Cameroun, il y a un truc, les gars, quand même, c'est que je sais pas ce qu'ils ont, ces gars-là. Ils arrivent à transverser un match, des fois, sur des trucs.
Oui, mais eux, de toute façon, ils aiment bien l'embrouille.
Toko Ekambi.
Écoute, s'il y a eu une embrouille avant, c'est mieux pour eux.
Là, Choupo-Moting, tu le vois pas du match, tout à coup, il est décisif. Aboubakar, il vient du banc. Alors que c'est à la CAN, c'était la star.
Mais c'est leur force.
Ils ont ça quand même en eux.
Ils ont ça, je te dis,
le Brésil, il faut quand même qu'ils se méfient un peu parce qu'ils peuvent un peu leur faire des trucs, les surprendre.
Après, pourquoi pas, après tout. Mais moi, je vais dire très honnêtement, moi, le Cameroun, je n'en ai pas cher de leur peau avant la compétition sur cette poule. Ils m'ont agréablement surpris sur la première heure de jeu face à la Suisse. Ils m'ont agréablement surpris aujourd'hui, pas dans l'aspect football, mais plutôt dans l'aspect intensité, dans l'aspect force collective et solidarité. Et ça leur a permis d'obtenir ce match nul. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un écart, même avec une éventuelle équipe B du Brésil, trop important. Mais sur un scénario de match où il y a un but d'écart, où il y a toujours 0-0, où ça bute, où tu défends bien, etc., on ne sait pas ce qui peut se passer.
Mais je veux dire, le Cameroun n'attendait qu'une chose, c'est que le Brésil gagne ce soir. Justement pour se dire, ils vont être relâchés sur le troisième match contre nous. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais il y a quand même un écart effectivement conséquent entre les deux équipes.
Mais au final, c'est le Cameroun, je considère déjà leur Coupe du Monde comme réussie, quoi. Enfin, si on prend pas les propos de Samuel Eto'o qui voyait son équipe
gagner.
Une
défaite, un match nul, tu trouves ça réussi?
C'est pas aussi réussi. Hein.
Ah ben moi je t'assure, autant sur les autres pays africains, tu pouvais espérer un minimum. Franchement, sur le Cameroun, honnêtement, alors. On peut te dire oui, les matchs amicaux, c'est pas ça.
Ils ont réussi le Maroc, ils vont faire quoi alors en allant en huitième, le Ghana peut y aller aussi.
La qualité individuelle de cet effectif, ce qui se passait sur les dernières semaines depuis le match amical en Ouzbékistan, le match amical face à la Corée du Sud, les matchs amicaux face au Panama et face je crois à la Jamaïque. Enfin, honnêtement, il y avait une grosse enfin moi j'étais réellement inquiet, j'avais peur du ridicule. Honnêtement, la satisfaction c'est qu'il ne soit pas ridicule.
Merci Hamza.
Il y a un dernier mot, je crois, de Gobert Song sur le match face au Brésil.
Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit.
Cette phrase, il a prononcé cette phrase avant le barrage retour face à l'Algérie. On l'a tous pris pour un fou. Je peux t'assurer.
Tu l'as gardé dans ton téléphone,
ça. Je peux t'assurer, Gilbert, que cette phrase, elle résonne en moi tous les jours et tous les soirs.
Merci Hamza, bonne soirée. Dans un instant, le reste de l'actu du jour hors Coupe du Monde avec Johan Crochet pour parler de la Juve, entre autres. À tout de suite.